J'espère que ma contribution sera utile. Je n'ai rien à vous apprendre qui soit révolutionnaire, cela se saurait. Je souhaite au contraire rappeler les données les plus simples et les plus sûres de la biologie embryonnaire et en connaissance de cause. Quantité de publications scientifiques nous apprennent des phénomènes nouveaux sur le développement embryonnaire à l'échelle moléculaire, ionique. Ces données, je dirais, nouvelles sont à l'échelle moléculaire, bien sûr, mais ce n'est que du savoir descriptif qui, me semble-t-il, n'apporte rien de nouveau sur ce que nous savons de longue date sur le statut de l'embryon humain. Je vous dois une explication sur le titre qui a fusé au téléphone avec Mme Welschi longtemps après que son courrier d'invitation parvienne, donc c'est sorti comme ça. Au secours, c'est un peu prétentieux, la biologie embryonnaire ne pouvant à elle seule résoudre tous les problèmes dits de bioéthique. Il faut entendre recours, support, contribution, mais en même temps, il me paraît impensable aujourd'hui qu'un philosophe, un théologien, un évêque, fût-ce Monseigneur Dornelas, président du groupe de réflexion sur la bioéthique au sein de la conférence épiscopale, impensable que toute personne avisée qui souhaite réfléchir sur le statut de l'embryon humain ignore les bases les plus simples du développement embryonnaire. Est-ce que pour justifier ma foi catholique, je dois être théologien ? Je renverse la proposition. Problématique, je vais faire vite, vous avez ces repères déjà. L'embryon humain est-il une personne ? J'aurais dû ajouter, si oui, à partir de quand ? D'Aristote à Saint-Thomas, on vient d'en entendre parler. Le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis sur l'avant-projet des révisions de loi éthique en 2001, janvier 2001, a dit quelque chose, je vais citer deux, trois phrases. Ces réflexions s'inscrivent dans un débat philosophique et éthique qui n'est pas clos et qu'il ne le sera peut-être jamais. Alors comme ça, c'est pas la peine d'y revenir et je me demande ce que nous faisons là aujourd'hui, entre nous. Quant à la nature de l'embryon, la notion de, écoutez bien, de processus embryonnaire en cours, périphrase, c'est un pléonasme au carré, processus embryonnaire en cours témoignerait peut-être de l'énigme qui entoure la nature exacte de l'embryon. Énigme, au premier stade de sa vie. Et enfin, le comité recommande une référence à la fin du stade préimplantatoire. On se demande pourquoi. Et en tout cas, c'est la porte ouverte, vous le citiez, à des méthodes d'avortement préimplantatoire, telles que le stérilet ou la pilule du lendemain dans certaines conditions. J'avais cité également Claude Sureau pour faire le grand écart avec Tertullien parce que cette éminente figure de notre médecine, ancien président de l'Académie de médecine et encore membre, gynécologue obstétricien qui a inventé le monitoring fœtal, s'est interrogé sur le statut de l'embryon. Et chose ou personne, alors il trouvait que chose c'était pas assez, personne c'était un peu trop, alors il a inventé une voie intermédiaire qu'il appelait être prénatal. Être prénatal, je ne sais pas très ce que ça veut dire. Contribution de la biologie embryonnaire aux premières heures de l'homme, je fais ce diapo pour dire c'est là que je situe mon propos, aux premières heures de l'homme, car là se situe le début de la vie et là sans doute, sans aucun doute, naît une personne nouvelle dans notre monde humain, même s'il y a de nombreux échecs dans ses engendrements et ce sera une des questions polémiques que nous pourrons soulever. Alors en trois volets, autour de la conception, continuité du développement, c'est un point extrêmement important. Et puis la personne embryonnaire, qu'est-ce que l'on peut en dire? Est-ce qu'il y a des outils nouveaux pour cela? Autour de la conception, tout d'abord, alors je me permets de rappeler quelque chose de tout à fait élémentaire, c'est qu'un événement pris à un moment donné ne peut être que la conséquence des causes qui l'ont produit. Donc il y a toujours des préalables, il y aura des suites, on peut dans les suites prendre un autre événement qui aura eu ces éléments précurseurs et il y aura des suites aussi. Donc, reporter au sujet qui nous intéresse, la gamétogénèse précède la constitution du zygote, Et j'en profite pour faire cette distinction, il faut être extrêmement précis sur les termes, cette distinction entre la fécondation au sens strict, qui est pour les physiologistes la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte, et la conception, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que apparaissent les deux premières cellules du corps, les deux premières cellules somatiques.